Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette présentation de la Transcyclopédie, un livre que nous avons co-dirigé avec Karine Espinera, qui se présentera tout à l'heure, Maud Yastoma et moi-même. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de vous parler du livre à proprement parler, j'aimerais vous parler de son contexte de production. Nous nous sommes rencontrés avec Karine et Maud lors d'un colloque sur la question trans, pour pas changer. Et nous avons décidé de mettre sur pied un observatoire des transidentités, qui s'est immédiatement voulu comme un lieu, un espace, une interface entre la question trans d'un point de vue universitaire et d'un point de vue militant. C'était une manière pour nous de mettre à mal, de questionner les frontières entre, d'une part, un savoir savant et, de l'autre part, un savoir profane. À savoir que la question trans a toujours été écrite par le haut, par les psychiatres, par les psychanalystes, plus récemment par les sciences humaines, et que jamais, rarement, la question trans s'est vue reconnue de par les écrits des trans eux-mêmes ou de leurs amis militants. Donc c'était ce souhait, d'abord un souhait de recherche, un souhait militant et un souhait amical, un souhait, on pourrait le dire, sous le sceau de la bienveillance, écrire la question trans avec des mots qui ne deviennent pas de la maltraitance théorique. Voilà. Des mots qui ne sont pas maltraitants. Alors, chose qui peut paraître anodine, bon, en réalité, lorsqu'on lit les textes de psychiatres ou de psychanalystes, la maltraitance, elle semble à peu près partout, à toutes les pages, à tous les mots. Parfois même dès le titre. L'Observatoire, c'est donc tous les mois un texte ou un dossier sur la question trans et sur tous les sujets que la question trans peut recouvrir. Ça peut être l'école, ça peut être la transparentalité, ça peut être la question des artistes queer ou bien des interviews d'associations. Donc on voit bien dans cette méthode le souhait de relier la recherche universitaire avec la production du terrain. L'Observatoire des transidentités, c'est aussi un petit ou un gros fuck qu'on a envoyé. Le fuck, il va rester à l'enregistrement ou... C'est un petit ou un gros fuck qu'on a souhaité envoyer à tous ces chercheurs, confirmés ou en voie de lettres, donc en master ou en doctorat, ou chercheurs en poste, qui sont venus sur le terrain transidentitaire, qui ont pris ce qu'ils avaient à prendre et puis qui sont partis. On a voulu dire avec l'Observatoire des transidentités qu'on ne peut pas spolier un terrain, que le terrain transidentitaire, c'est un terrain non renouvelable. On est obligé de renvoyer au terrain ce qu'il a pu nous apporter lors de notre recherche. Donc au fond, l'Observatoire des transidentités, la méthode qu'on a essayé de mettre sur pied, c'est une déontologie dans la recherche, c'est aussi une éthique dans la rédaction. Voilà pour cadrer le contexte de production. On pourra peut-être en reparler, mais je vais laisser la parole... alors, je ne vais pas dire la parole à mes co-auteurs, puisqu'en réalité, c'est moi, leur co-auteur. Voilà, je vais laisser la parole à Karine et à Maud, qui me menacent de son ouvre-bouteille.
Alors, moi, je vais intervenir sur la même question, mais d'une autre manière. Oui, je m'appelle Maud Yastoma. La question trans, elle a déjà évolué plusieurs fois. C'est une histoire qui change en accéléré actuellement et qui très probablement dans l'avenir va encore changer. Donc ce n'est pas une question unique. C'est d'emblée tout de suite, disons-le comme ça, il y a deux questions trans. Il y a une question trans en Occident et il y a une question trans hors Occident. La question trans en Occident, elle devient une controverse extrêmement vive, surtout en France, à partir de 1979, date de la prise en charge du transsexualisme en France. Bon, grosso modo, la question trans, ça peut se dire en une seule formule, le changement de sexe. Les personnes transsexuelles sont des personnes qui changent de sexe. Il y a deux types de transition, puisqu'on appelle ça comme ça. Une transition homme vers femme, femme vers homme. Donc le transsexualisme, c'est quelque chose qui est fortement structuré par la conception binaire de la différence des sexes. C'est la raison pour laquelle on parle de changement de sexe. La seconde manière d'envisager ce sujet, c'est de voir un petit peu comment les autres sociétés, notamment les sociétés chamaniques, ont abordé, ont négocié, ont régulé ces passages, ces transitions, et surtout ces tiers identitaires. Donc là, la question n'est pas régulée par le champ médical et juridique, comme en Occident, avec une vision rationaliste de nos identités, mais elle est régulée par des conceptions spiritualistes. Par exemple, dans la société inuite, comme dans la société amérindienne, ces passages, ces transitions, elles ne sont pas régulées par une conception de la différence des sexes, mais par un passage de monde à monde. Les transitions des individus, ou dans certains cas précis, à l'âge d'enfant, ne sont pas régulées par le champ médical ou juridique, ou plus exactement médico-juridique, mais par le champ social et le champ spirituel. On voit bien là d'emblée qu'il y a deux questions, deux formulations de la même question. Une question que nous, en Occident, on appelle la question trans. Voilà pour le premier point. Le second point, c'est que dans un premier temps, à partir de 1979, très vite, se sont constitués des groupes, des collectifs, des associations, etc., pour se venir en aide mutuellement, parce que c'est une histoire qui leur est globalement totalement incompréhensible. Comment, alors que nos identités semblent être régulées par la nature, sous la forme de votre sexuation, et plus précisément la forme de votre sexe, ou alors sous l'angle de juridique, où on vous dit, on vous nomme, on vous introduit rituellement à la vie sous la forme de « c'est un garçon, c'est une fille ». Comment, dans cette hyper-ritualisation, comment comprendre le fait trans qui, cette fois, ne peut plus être défini par un changement de sexe, mais par cette question « mais qui suis-je ?» Voilà. La question trans, c'est aussi cette question-là, qui suis-je? J'en profite pour souligner, puisque nous avons travaillé également sur la question intersexe, que nous interrogeons également beaucoup, et les intersexes nous renvoient cette même question. Qui suis-je? Pourquoi le corps médical opère et hormone les enfants intersexes? Ne peut-on pas laisser les corps intersexes vivre, se vivre comme ils sont? Pourquoi le champ médical intervient sur les corps intersexes, ce qui pose immédiatement la question à pourquoi le corps médical opère les corps transsexes. Troisième point, c'est la politisation du terrain. Jusqu'à présent, au fond, la réponse des collectifs, des associations, des groupes, c'était en gros, je cite, comme ça, ça me simplifiera la chose. Une première association, l'AAT, qui s'est créée à Marseille, nous dit « Nous n'avons que peu d'affinité pour le spectaculaire. Ici, vous trouverez le résultat d'une réflexion sérieuse émanant de femmes et d'hommes, tout simplement qui ont eu à traverser un pont, d'une rive à l'autre et de la notion difficile d'un sexe défini de naissance. » Là, le transsexualisme, c'est un passage temporaire. C'est la transition d'une identité de sexe à une autre identité de sexe. Une autre structure bien plus récente, Vella, qui a été fondée en 2008 à Aix en Provence, dit « Notre lutte est politique. Nous luttons contre l'hétéropatriarcat. Nous sommes solidaires des luttes et des combats plus vastes contre les discriminations et contre les oppressions partout dans le monde. » Là, la vision, elle est complètement politisée. Elle s'est nourrie du féminisme, du post-féminisme, du mouvement antiraciste, etc. Ce n'est plus du tout la même vision. Là, dans un premier temps, nous avons des acteurs qui, au fond, suivent la binarité, semble-t-il, naturelle de la différence des sexes, et il se plie au fond à ce modèle syncrétique. De l'autre côté, nous avons des gens qui se sont fortement mobilisés et politisés au contact des théories sur les discriminations, sur les oppressions. Et la réponse n'est pas du tout la même. Karine.
Bonsoir. Donc, merci d'être là. En fait, je vois qu'il y a beaucoup de monde. C'est un très, très grand plaisir. Donc, Arnaud a donné un cadre, humain, enfin, a souligné toute l'humanité, toute l'éthique qu'il y avait à produire ce livre. Maud a encore aussi parlé de ces personnes que sont les transidentités. Moi, maintenant, j'ai envie de parler de culture. Voilà, ce livre témoigne aussi de notre inscription dans la culture commune. Alors, peut-être que les cultures trans ne sont pas la culture de tout le monde, qu'elles ne sont pas connues par tout le monde. Nous, ce qu'on souhaite, c'est cette inscription-là dans la culture, cette reconnaissance dans l'humanité. Que vous dire d'autre ? Ce livre a mis beaucoup de temps à voir le jour. Il a essayé de naître en 2005. Il a essayé encore de renaître en 2006 ou 2007, mais le monde de l'édition n'en voulait pas, bien qu'il y avait des gens qui le voulaient très très fort. Donc il est aussi le fruit de rencontres, il est aussi le fruit d'amitié. Donc évidemment, je parle de la rencontre avec Arnaud, mais je parle aussi de la rencontre avec Jérémy Patinier, donc notre éditeur, qui était vraiment très très courageux et qui nous a suivis, mais j'ai envie de dire bravo, voilà, bravo de nous avoir permis d'inscrire finalement les transidentités dans la culture. Ça y est, on l'a ce livre. Ce livre, je le comparerais à, pourquoi pas, un livre sur le Chili. Imaginons, c'est un livre sur le Chili. On va parler de géographie, on va parler de climat, on va parler de la cordillère, on va parler des langues nationales, peut-être des langues locales, parce qu'il y a aussi des populations qui étaient là avant la colonisation. On va parler de tout ça, mais on va aussi forcément parler peut-être de révolte, on va aussi parler d'émancipation, on va parler d'indépendance. Et c'est ce cadre-là qu'on a voulu donner aussi à ce livre. C'est l'histoire aussi de l'appropriation par des personnes de leur droit simplement à exister, de leur droit à théoriser, de leur droit à être politique, le droit à questionner la société dans laquelle ces personnes apparaissent, dans laquelle nous sommes apparus. Ce livre est toute cette histoire. Alors, on n'a pas voulu non plus se cantonner à diriger. Nous, on aime bien dire qu'on a coordonné ce livre et qu'on a voulu vraiment fonctionner par la plus grande inclusivité possible. Donc, on a associé les associations, pour le dire comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on leur a demandé des présentations propres et pas nous contenter de copier-coller. Il fallait qu'il y ait un contact avec les associations, avec des personnes. Il fallait que on ose aussi investir des terrains dans lesquels on n'est pas forcément des spécialistes. Je passe à l'intersexualité. Donc, à un moment donné, il faut oser aussi dire on ne sait pas et on ne maîtrise pas forcément le sujet. Donc, on va voir des gens qui vont nous rapporter leur aide, qui vont, et pour le coup aussi, nous enrichir. Donc, voilà, tu soulignais la question de l'éthique. À mon avis, elle est aussi là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas... On a le droit à l'erreur, faut le revendiquer. Mais quand on peut l'éviter... Moi, je crois que l'éthique est quand même un bon surplomb.
Alors, pour continuer hein, sur ce qui a dit, ça fait très travailler, mais en fait, on a rien bossé. Hein. Trois choses. La première chose, c'est que parmi les gens qui ont écrit dans la Transcyclopédie, il y a des gens dans la salle. Alors, on peut peut-être les remercier. Hein, ils sont là, on les a vus. Il y a Jean qui a permis d'écrire un article, Rachel qui a permis d'écrire un autre article.
Brigitte.
Il y a Brigitte, on te remercie infiniment. Il y a Philippe, j'en oublie sûrement. Ce qui prouve que cette Transcyclopédie, c'est une œuvre collective et une œuvre amicale. La seconde chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que cette Transcyclopédie, ce n'est pas, ou plutôt la question trans telle que peut-être la présenter Maud, ce n'est pas un arche de Noé des discriminés. Hein. On n'a pas mis tous les discriminés ensemble pour pleurer, pas du tout. Cette Transcyclopédie, c'est aussi un outil de résistance. C'est un outil de résistance à tout ce qui pourrait apparaître comme une hétéropatriarcalisation des corps, une colonisation des corps, pour reprendre le terme de Maud, ou une cisgenration des corps. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Cisgenre signifiant une personne dont le sexe ou le genre est fixe depuis son assignation à la naissance. Sur la question 6, il y a un élément, me semble-t-il. On a longtemps entendu que la question trans devait être écrite par les trans, ce qui était sûrement nécessaire à un moment de l'histoire. Et en même temps... méthodologiquement, on voit bien la limite de ça. Est-ce que je dis à mes amis qui travaillent sur le VIH, sois contaminé avant d'écrire ? Est-ce que je dis à mes amis qui travaillent sur les violences conjugales, fais-toi battre par ton copain ou par ta copine, et puis après, tu pourras travailler dessus ? Non. C'est pour ça que, à titre individuel, mais aussi en tant que chercheur, j'ai apprécié tout particulièrement que cette transcyclopédie soit écrite prioritairement par les trans, que l'introduction... en tout cas que les premières pages soient écrites par les associations et qu'en même temps, au cœur de ce livre, il y ait aussi des personnes non trans, mais je le répète, bienveillantes, qui nous ont apporté leur éclairage sur ce livre.
Il y a une autre formule qui la résume très très bien. On voulait écrire une histoire qui soit trans, mais qui ne soit pas que trans, parce qu'on y aurait perdu... Et à rester entre nous, je vois pas du tout. Alors que nos différentes cultures ont effectivement beaucoup à partager. Et d'ailleurs, ce projet, il a abouti, c'est parce qu'on a collaboré, tout simplement. On s'est parlé, on s'est entendu.
Ce qui a fait que probablement les discours médicaux ont à ce point permis d'enquister la question trans, c'est d'abord qu'on a fait croire qu'il y avait une maladie, une infection, un trouble, voilà, et notamment dans le champ psychiatrique. Ça, c'est le premier point. Le second point est lié à notre conception au monde. Si vous dites votre identité, la manière dont vous êtes construit, dont vous construisez avec autrui, dont vous entrez en relation avec les autres est définie et même déterminée par votre sexe biologique, et non pas votre appartenance, par exemple, de genre, ou votre appartenance religieuse, ou votre appartenance sociologique, ou votre appartenance économique, ou votre appartenance de classe. Vous voyez que j'ai décliné beaucoup de choses. Si vous la définissez par un déterminisme biologique, eh bien, une personne qui se sent d'une autre appartenance passera... par ce déterminisme que chacun souligne. Donc on a deux renforcements. On a le renforcement du discours médical en appelant à une maladie, La question homosexuelle avait été marquée par ce même stigmate. Là, on parlait d'inversion sexuelle depuis le début du XXe siècle, et date d'ailleurs la première définition médicale des premières formes de transsexualisme au début du XXe siècle, qu'on appelait les transvestites. La première des définitions était justement l'inversion du sens génital ou l'inversion de l'identité sexuelle. Il y a eu un transfert culturel global de la théorie prétendant définir l'homosexualité vers cette nouvelle population qu'aujourd'hui on appelle les transsexuels. Et petit à petit, il y a eu grosso modo une dépsychiatrisation progressive où finalement aujourd'hui on ne parle plus que de souffrances cliniquement constatées chez les sujets. Et on l'attribue au transsexualisme. Si bien que le transsexualisme, ce n'est rien d'autre finalement que cette souffrance cliniquement observée du sujet lui-même. Mais ça ne répond pas à la question pourquoi il se sent de l'autre et qu'est-ce qu'on met dans l'autre. Est-ce que c'est l'autre sexe? Est-ce que c'est l'autre genre? Est-ce que c'est l'autre appartenance? Qui peut répondre franchement à cette question en prétendant trancher entre ces trois propositions?
Je veux aussi te répondre quand même. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, on parle d'amitié, on parle d'humanité, etc. En même temps, on n'est pas des bisounours. Hein. façon de parler, parce que j'ai envie de dire, donc Maud et moi, au niveau du ce que je vais appeler le terrain transidentitaire, c'est-à-dire les associations et collectifs trans, en général, on n'est jamais passé pour des gentils, loin de là. C'est-à-dire qu'en fait, on a une militance qui s'est politisée très très tôt, donc dès les années 95-96, qui s'est radicalisé dans une certaine mesure avec tous les guillemets qu'il faut mettre autour du terme radical, hein, pour une reconnaissance par l'État, parce qu'on a interrogé aussi la prise en charge, on a questionné les protocoles, on a aussi interrogé les choses qui s'écrivaient sur nous les trans. Enfin voilà, enfin moi je sais que quand une psychiatre, psychanalyste qui a une carrière de 50 ans nous compare au mouvement nazi, je m'interroge. Donc voilà. Donc ce qui veut dire que l'appartenance à l'humanité, elle se fait aussi avec des luttes. Mais ce bouquin, pour nous, ce qu'il représente, hein, il présente aussi un moment d'accalmie, parce qu'on ne peut pas être en lutte comme ça tout le temps. Et c'est bien, à un moment donné, voilà, de pouvoir partager et qu'on a ce support-là, qui est aussi le fruit de notre travail, qui est aussi le fruit de notre histoire. On a manqué de support, on a manqué de mémoire, on a manqué d'ancêtres, on a l'impression qu'on est sorti dans un chou, alors que c'est pas vrai.
Alors ce « on » dont parle Karine, c'est les trans et leurs amis. Hein, parce que moi, je suis pas trans. Mais en même temps, j'ai bien en tête que si on, donc ce « on » inclusif, a besoin de bienveillance, c'est parce qu'il y a eu des textes préalables qui sont tout simplement insupportables. Quelques exemples, peut-être. Colette Chilan. La solution militante est que les mesures prises par les minorités deviennent la loi générale. Songeons aux nazis qui ont réussi à faire adhérer presque tout un peuple à l'idéologie raciste. Elle parle des trans. Vous faire opérer, c'est quoi ? C'est essentiellement vous faire couper la queue, Lacan. Grâce aux artifices chirurgicaux et à l'absorption de drogues, on parle d'hormones, hein, le transsexuel devient un transsexuel amnésique de son vrai sexe. Je peux en citer d'autres, hein, qui sont tous plus croustillants les uns que les autres. Cette vache des étiquettes exprime la déroute de nos esprits. Je vous laisse... lire l'ensemble de ces œuvres transphobes.
Je vous lis ma préférée.
Donc, best of.
Alors, une psychologue clinicienne française qui a écrit un livre en...
Dis le nom.
En 94, Patricia Mercader, le titre de l'ouvrage, L'illusion transsexuelle. Citation. On peut s'interroger sur le droit de changer de sexe comme manière de disposer son corps. Donc là, elle fait référence à la tradition féministe, et pas que. Dans une perspective libérale, entre guillemets libérale, en somme. Et à ce moment, une association m'était venue. Si l'on peut parler de droit dans ce domaine, ce ne pourrait être que dans la mesure qu'on peut aussi parler de droit au suicide. On ne peut pas toujours l'empêcher. mais il vaut mieux ne pas en arriver là.
On a aussi une belle citation d'une psychiatre qui propose la lobotomie.
Je vois que vous que ce partage des silences qui reste noué là, des rires jaunes, etc., etc. Or, ce qu'il y a de commun dans toutes les populations discriminées, c'est que quantité d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes ont justement préféré se suicider plutôt que de reconnaître qu'ils sont homosexuels, bisexuels, transsexuels, asexuels, intergenres, intersexes, etc. Bon. Et peut-être que... Alors, on va prendre un autre registre et de plus en plus de personnes dites trans se déclinent sous fond de schématiques de transition. Ce qu'on appelle les personnes transsexes et les personnes transgenres. Les personnes transsexes sont précisément définies par le fait d'aller du point A vers le point B. Un simple aller. Les personnes transgenres ne se définissent pas selon cette schématique d'un simple aller, mais l'éventualité de changer de genre comme ils veulent, presque toute leur vie, en fonction de leurs préférences, en fonction de leurs amours, en fonction de la vie elle-même. Et là, on est totalement sorti du déterminisme par le sexe, voire du déterminisme toujours, tout court, sans pour autant relayer en arrière-plan le fait que tout le monde ici, hein, nous avons, comme dit Jean Zagagnaris, nous sommes pluriels, nous sommes multiples, nous construisons. Nous nous apprenons en fonction d'une pluralité et d'appartenance que nous ne qualifions pas toujours d'identitaire, et pourtant c'est le cas. Nos appartenances sociologiques, socio-économiques, sexuelles, de genre, relationnelles, etc., etc. C'est bel et bien ces morceaux de puzzle qui nous permettent de construire une identité à peu près stable, à peu près définie, à peu près, etc. Je terminerai juste cette brève appartenance par... Aujourd'hui, on désigne cette espèce de flottement dans l'identité, mais qui n'empêche absolument pas une identité stable. Entendons-nous bien, il y a un siècle, Freud interrogeait l'androgynie psychique. Précisément, le fait que l'on peut très bien avoir une identité qui n'a strictement rien à voir avec la sexuation de notre corps.
Sur les petites citations là, qu'on a données tout à l'heure, je voulais le présenter autrement en disant, voilà aussi quand on parlait de bienveillance avec ce bouquin, comment est-ce qu'on peut définir sans disqualifier, comment est-ce qu'on peut agir sans se mettre nous-mêmes à renormer. Bon, et là dans les définitions qu'on voit quand même, qui sont des définitions d'universitaires, je suis moi-même universitaire, pose quand même des questions. Pose des questions, bon, je crois qu'on est en droit de leur demander des comptes. Voilà.
Sur l'identité de genre telle que l'Argentine vient de faire passer. Très rapidement, pour les personnes non informées, l'Argentine a tenté de réguler la question trans, non pas articulé à la question médicale, mais à la question du champ juridique. Et elle propose rien de moins. Et là, elle prend le contre-pied de la loi en France qui statue toujours sur l'indisponibilité de l'état de la personne, c'est-à-dire que vous ne pouvez en changer en rien quel item que ce soit sur votre acte de naissance et donc votre existence présente. Même quand vous avez 80 ans, vous pourriez vivre 1000 ans, ça ne changerait rien. L'Argentine revient sur ce postulat juridique qui est dérivé d'une conception naturaliste de notre existence sexuée. Et ce faisant, elle rend aux individus citoyens Et là, on parle bien à des personnes et non plus à des corps sexués. Elle rend l'identité des individus dits disponibles en fonction de l'évolution de leur trajectoire d'existence, que ce soit un changement de genre, un changement de sexe, un changement de genre et de sexe, un autre type de changement que éventuellement nous n'aurions peut-être pas envisagé. Typiquement, en France, le champ médical est d'autant plus solide, semble d'autant plus stable et compact qu'il est arc-bouté à la question, au champ juridique qui postule cette indisponibilité de l'état de la personne. La bizarrerie, mais partout en Occident, c'est que cette même indisponibilité de l'état de la personne autorise ces médecins à hormoner et opérer des enfants intersexes. Et là, il n'y a strictement aucun débat. Précisément, toute cette violence est permise par le fait que l'État a délégué à des gens l'exercice discret de cette violence étatique à l'intérieur du cabinet, et sur lequel il n'y avait aucun contrôle démocratique, ni médiatique, ni... notre travail, ça consistait précisément à soulever... à soulever les conditions de cette production des violences.
Quelques commentaires peut-être sur votre question. Il me semble que ce n'est pas anodin que la question du mariage soit problématique, parce qu'elle pose la question du sexe. Sauf que chez les PD et les Gouines, on se pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire de mon sexe? Plutôt, où est-ce que je vais le mettre? Chez les trans et chez les putes, on se pose la question, qu'est-ce que je vais en faire de ce sexe? Est-ce que j'en change? Est-ce que je le garde ou est-ce que je le loue? Est-ce que je le vends? Est-ce que je le troque? Et on voit bien que ce n'est pas les mêmes questions qui se posent. Et on n'a d'ailleurs pas les mêmes réponses. Pour la question homosexuelle, la réponse, c'est l'assimilation. Voilà, comme on l'avait d'ailleurs avec les non-blancs, l'assimilation. Pour la question trans et pour la question des putes, vu que les questions se recoupent parfois, on a quand même cette phrase bizarre... où des psychiatres, des chirurgiens, des juristes, des politiques disent « Il est normal que votre vie soit moins vivable que la mienne. Il est tout à fait normal que votre vie soit pas vivable, du tout. » c'est ça qu'ils disent. Pour être clair sur la proposition de loi, en France, actuellement, pour avoir un changement d'état civil après une opération remboursée, il faut avoir comme condition sine qua non une stérilisation. Grosso modo, la France ne veut pas voir d'hommes enceints. C'est ça, le truc. Donc, pour ne pas perturber les gens, c'est tenté qu'ils soient perturbés, on va en stériliser quelques-uns. Ça vous rappelle une petite histoire des nazis que les psychiatres avaient pourtant attribuée aux trans. Tiens, c'est bizarre, les rôles sont échangés. Et puis, pour être très concret, donc vraiment sur cette proposition de loi... qui s'esquisse, hein, elle est en train d'être écrite et je sais que Karine participera activement aux négociations. En Argentine, le sexe est déclaratif. Bonjour, je suis monsieur, bonjour, je suis madame. Ça veut dire qu'on fait une hypothèse, et qui n'est pas une petite hypothèse. On fait l'hypothèse de la bonne foi des individus. On dit aux individus, on vous croit. Donc vous pouvez être un individu en tant que tel. Vous n'êtes pas tutélaire d'un psychiatre ou d'un juriste pour être qui vous êtes. C'est pas un petit changement, quand même, de dire à l'individu, on vous croit.
Et on vous fait confiance.
Et on vous fait confiance. Mais c'est au-delà de l'égalité des droits. Hein. C'est la libre disposition de son corps aussi. Hein. C'est vraiment au-delà de l'égalité des droits.
Le fait que l'État a délégué au champ psychiatrique la gestion de ses parcours... alors, on peut les nommer... Et chaque société les nomme, chaque époque les nomme. Tout à l'heure, j'ai dit que à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, quand les premiers psychanalystes, rencontrent ces individus d'une sexualité alternative ou d'un corps alternatif ou d'un comportement alternatif, tout de suite, ils cherchent des mots, ils cherchent... et le référent reste cette binarité de la différence des sexes que nous appelons des hommes et des femmes. Et de fait, l'invention de l'homosexualité précède l'invention du mot hétérosexualité. Donc voilà. Donc la recherche des mots est très très vite des théories sur la sexualité et très vite sur la genèse de l'identité chez l'être humain. Elle est tout de suite extrêmement problématique. Ce n'est pas encore au début du XXe siècle l'heure des grandes théories politisantes et sociologiques, ethnologiques et anthropologiques que nous connaissons aujourd'hui. Le champ médical et tout particulièrement le champ médico-légal investit très très rapidement ces identités culturellement inattendues, étonnantes, étrange, qu'il faut absolument nommer. Et très vite, la question de la régulation passe à une question de la gestion de ces micropopulations.
Et quand on dit gestion, on dit aussi remboursement. Donc on voit bien le problème. Comment ne pas être psychiatrisé? Comment être remboursé sans être psychiatrisé? Ou comment être dépathologisé en étant dépsychiatrisé? Alors, comme dirait Maud Justoma, putain de transe, hein.
Bon. Enfin, je pense que les autres, ils auront peut-être probablement quelque chose à dire. Non, la réception, elle est plutôt bonne. Alors moi, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas si tu les as toi. Mais le
350.
Oui, alors que ça fait combien? Ça fait moins de 3 mois, ce qui est plutôt un bon score, on va dire. Donc il est... D'une façon générale, par contre, il déconcerte les médias. Voilà. Moi, j'ai plutôt parlé de cet aspect-là, il déconcerte les médias. C'est-à-dire qu'on l'a dit, nous, on veut à tout prix définir, mais sans disqualifier les gens. Donc, on a fait très attention. Le travail de vulgarisation, il y a un point en dessous duquel on ne peut pas descendre. C'est, on ne peut pas résumer, entre guillemets, les trans en disant il y a des opérés et des pas opérés. Mais c'est pourtant ce qu'on voit dans Libération, par exemple. Voilà, on en arrive à ce genre de situation à un moment donné où même des étudiants qui nous écoutent très attentivement, qui sont pleins de bonne volonté et qui nous font de chouettes interviews, mais dans la partie glossaire, là, c'est le drame. C'est le drame, on en arrive à 3 phrases. Il y a une page web, c'est bon, il y a le temps. C'est pas comme s'il n'y avait pas de place sur le papier. Enfin, voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi un peu transpirer pour permettre un petit peu ce jeu de mots. Et que le sujet, il est aussi complexe. Et que nous, on essaie de faire un travail de vulgarisation, mais à un moment donné, on ne peut pas. Et c'est aussi, à mon avis, ça explique aussi cet échec de cette pédagogie dans le média audiovisuel. Parce qu'on ne peut pas descendre en dessous d'un certain stade. Le format télévisuel ne le permet pas. Le format documentaire, oui, mais pas le format télévision. C'est impossible.
Il y a la question des corps aussi. Rachel, je ne veux pas t'outer, mais cet après-midi, tu étais à poil en train de nous faire une conférence. C'est problématique d'un point de vue du corps. Comment faire une conférence à l'université lorsque ton corps n'est pas un corps d'universitaire ou en tout cas n'a pas les habits du corps universitaire? On t'a vu enlever tes vêtements et ça a perturbé tout le monde. Tout le monde te voyait, tu nous voyais te voir, mais tout le monde se taisait. Ben, c'est un peu pareil hein, avec la transcyclopédie. On se retrouve invité par des universités et en même temps, le public garde en tête que Karine et Maud, c'est des trans, qu'Alessandrin, c'est une folle. Alors fuck, quand même, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et ce gap entre le corps et l'écrit, il perdure.
Voilà. Et donc, sans cesse, il faut rappeler, entre guillemets, la position, c'est tout bête, hein, mais on est dans un pays où apparemment les médailles comptent beaucoup. Donc on est obligé de rappeler, mais on est aussi docteur, on a aussi publié. D'où l'importance aussi de produire.
Effectivement, dans cet ouvrage, nous sommes quand même une bonne trentaine à y avoir contribué. On a parlé tout à l'heure de l'article de Philippe, de l'article de Brigitte sur Judith Butler, etc. Donc, effectivement, il y a des articles qui mobilisent des savoirs universitaires, voire franchement académiques, dont il faut en effet avoir un bagage social. Nous avons également voulu investir les études filmiques, là, qui sont en relation avec ce courant qu'on a aujourd'hui, on appelle les cultural studies, et ce même journaliste qui cliquent frénétiquement sur les définitions, bah, ma foi, un peu compliquées, avec des phrases proustiennes qui n'en finissent pas de mobiliser des concepts spécifiques à des champs disciplinaires qui, ma foi, bah, donc il va très vite aux études filmiques, qui tombe sur un article écrit à propos de d'une série médiévale fantastique qui s'appelle Game of Thrones, où il y a une petite gamine que nous qualifierions aujourd'hui de tranchant. Il y a un siècle que le siècle dernier aura qualifié d'androgyne. Et donc ce journaliste écrit « Ah, enfin, du langage simple, compréhensif, c'est l'esprit. » Et il titre le rôle de la gamine, elle s'appelle Arya Stark. Et il dit « Ah, voilà, mais bien sûr, une icône queer. » Alors que notre propos, une icône trans. Mais notre propos, c'était pas du tout ça. C'était précisément de dire que, in fine, c'est que l'identité, ce n'est pas du tout cette chose. Alors, premièrement, cette chose naturelle, comme un allant de soi se construisant, soit à partir du sexe, soit à partir de la désignation juridique. Tu es un garçon, tu es une fille, mais quelque chose qui se construit difficilement dans le temps, qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas toujours stable dans l'existence, qui se reformule, que les individus reformulent même, qu'ils reformulent non seulement avec leurs difficultés, avec la découverte des plaisirs de l'existence, des plaisirs du sexe, mais en relation avec cet autrui, cet alter ego qui découvre dans l'amour, etc. Donc, in fine, le sujet, c'est pour la raison pour laquelle nous sommes passés de la transsexualité au milieu du siècle, au transsexualisme, grosso modo, de 1960 à 1990, à aujourd'hui, au terme de transidentité. Nous sommes bien dans le registre de l'identité, et cette identité-là, quel qu'il en soit, les déterminismes qu'une société se donne pour des raisons d'identification, pour des raisons de repère, qu'on comprend bien, pour des questions de rituel, l'anthropologie nous rappelle sans arrêt le rôle nécessaire des rituels dans la vie humaine. Quoi qu'il en soit, si aujourd'hui on parle précisément bien de transidentité, c'est parce que nous sommes bien dans le registre de l'identité. Et cette identité n'est absolument pas, la vie de l'identité n'est absolument pas réductible à des déterminismes, quels qu'ils soient.
Moi, j'ajouterais aussi que le regard, il a été enrichi aussi par les apports récents des sciences humaines et sociales, celles qui se sont intéressées sous un angle bienveillant, pas pathogène, pas psychiatrisant, sur le sujet. Je voudrais aussi souligner ce qu'on doit aux travaux et aux luttes féministes. Les théories que nous ont fournies les épistémologies féministes, ce sont des outils mais extrêmement puissants aussi pour affirmer notre place dans le monde. Et ça, merci.
D'où l'entrée sur le transféminisme qui nous tient à cœur, puisqu'à chaque fois qu'on présente le livre, notamment à Paris, à trois reprises, on a mis un point d'honneur à travailler cette notion de transféminisme, à savoir, au fond, comment être trans et féministe. Alors, peut-on l'être d'abord, et quel intérêt y a-t-il à puiser du côté du féminisme des éléments pour la lutte des personnes trans ?
Ou simplement pour l'existence. L'existence quotidienne, le simple fait de vivre dans notre monde actuel.
Oui, on a fait mieux que ça, puisqu'on a même traduit des textes spécialement pour la Transcyclopédie de chercheurs étrangers que Karine et Maud avaient dans leur grand répertoire. Alors sur l'histoire de la Transcyclopédie, je crois que Karine a plus à dire que moi, puisque c'est elle qui a porté à bras-le-corps le projet depuis des années.
Au départ, enfin, j'en parle un petit peu dans l'intro, mais c'est vrai que le travail de Louis-Georges Jetin avec son dictionnaire de l'homophobie a été pour nous quelque chose, est un élément absolument primordial. On avait trouvé l'ouvrage, un, courageux, et secondo, d'une richesse absolument incroyable. À côté de ça, il y avait Maxime Foster, donc, qui a écrit depuis donc, cette histoire des transsexuels, qui avait eu envie, qui a proposé ce projet-là. Ça a avorté, comme je le disais tout à l'heure. Alors, la forme elle-même, à l'heure actuelle, sur la transidentité, à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent. On n'en connaît pas. Dans les différentes tentatives qui ont été faites, donc la première, c'était de mobiliser le tissu associatif, mais qui avait d'autres priorités. Parce que y a des luttes, hein, les luttes sont juridiques, elles sont médicales, etc. Elles sont très exigeantes, donc les gens n'étaient pas mobilisés pour ce type de projet-là. Dans un second temps, moi, je me suis dit, je vais essayer de voir un petit peu à l'international ou mesurer un petit peu le retard qu'on avait en termes de production de savoir, puisque nous, on était encore ici des objets de savoir, donc c'est pas le même rôle. Hein. Qu'est-ce qui s'est un petit peu se fait à l'étranger ? C'est vrai que j'avais des contacts aux États-Unis, j'avais des contacts en Amérique du Sud, j'avais des contacts un petit peu partout, j'ai mobilisé, mais on s'est heurté effectivement à la crédibilité du sujet, c'est-à-dire des objets de savoir ne publient pas. Voilà, c'est des trans. On était cantonnés un petit peu au cabinet de psychiatre, on n'existait pas dans l'espace public, voilà, en tant qu'être pensant, agissant, ayant des opinions, etc. Donc il a pris cette forme-là maintenant, mais je pense aussi que c'était peut-être le moment. Il y a aussi ce, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, un concours de circonstances, des énergies qui se rencontrent.
Alors, on a eu des propositions de traduction immédiatement après l'apparition du livre, en anglais, en espagnol, plus récemment en italien, avec cet écueil, pas des moindres, que le livre est, malgré l'ouverture internationale, un livre encore franco-français. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité de la question trans en France, des luttes trans en France, de l'histoire des associations. Donc, on aimerait bien que ce livre soit traduit. Malheureusement, s'il devait être traduit, il devrait, à mon avis, perdre la moitié de ses pages pour être réécrit de manière à être recontextualisé dans les pays qui souhaiteraient en acquérir les droits. Puis il est très très cher comme livre. Alors, le mouvement LGBT est prioritairement un mouvement LG. Ça, on le savait, hein, dans les milieux lesbiens, gays, bi-trans, on voit des lesbiennes et des gays. Je ne sais même pas dire des gouines et des PD. Ce qui fait que la question a été complètement invisibilisée. Et on le voit avec la question du mariage. En intégrant une partie du monde LGBT, on exclut de fait une autre partie du monde LGBT, puisqu'on focalise pendant un an la question de la militance sur « Par pitié, j'aimerais bien recevoir du riz sur la gueule dans une mairie. » La question, c'est donc elle passe à la trappe. Donc les stéréotypes peuvent continuer à perdurer. Je crois que la question, elle est plutôt celle-ci. D'abord, un retour historique. Il ne faut pas oublier que Stonewall, ce n'est pas des PD qui se sont rebellés. C'est quoi ? C'est des folles qui ont pris leur sac à main et qui ont tapé sur des flics. Non, mais c'est ça l'histoire. Faut pas oublier que le premier mariage homosexuel, c'est pas deux personnes à bègle. Le premier mariage homosexuel, en tout cas qui perdure, c'est une trans et sa copine à Nancy, en tout cas visible et médiatisée. La question homosexuelle, elle avance par la question trans. Alors si ça, on le reconnaît pas à la question trans, si les mouvements homosexuels ne reconnaissent pas à la question trans, forcément, la question trans restera toujours à la marge. Il ne faut pas oublier non plus que ce qu'il y a de commun à la question homosexuelle et à la question trans, c'est que quand on se fait insulter, sale PD, sale gouine, c'est pas parce que on a changé de sexe, c'est parce qu'on a un genre dissident. C'est parce qu'en tant que garçon, on n'arbore pas la bonne masculinité, par exemple qu'on a des colliers ou du vernis argenté, ou alors parce qu'en fille, on n'arbore pas la bonne féminité. Et c'est ça qui lie la question homosexuelle et la question trans.
C'est vrai qu'on nous la pose depuis très très longtemps. Hein. C'est en quoi nos luttes sont... En quoi finalement les orientations sexuelles ont à voir avec les revendications de genre. Justement, c'est le genre. C'est le genre. Et la disqualification en général par des arguments de genre. Quand on met au banc de certaines communautés, les camionneuses, les bouches, rien que les mots, déjà, en disent beaucoup en intracommunautaire ou les folles, hein, ou les travestis chez les trans, c'est pareil. C'est qu'est-ce qu'on fait sinon reproduire en intracommunautaire ce genre de choses. Et qui finalement témoignent d'une sanction sociale. Et elle est toujours basée sur le genre. Donc même nous-mêmes, en intracommunautaire, on reproduit finalement ce type de choses. Donc, que dire, j'ai envie de dire l'égalité des droits. si ça, ce n'est pas une convergence des luttes, alors qu'est-ce que c'est ? Évidemment, ce travail de pédagogie qui est éternellement à faire, mais je crois aussi que c'est quasiment, ça se porte comme un sacerdoce. On peut pas non plus, je crois qu'il faut pas non plus éluder, comme je disais tout à l'heure, égratigner nos communautés. Je crois qu'il faut vraiment pas hésiter. Il y a de l'homophobie chez les trans, de la même façon, il y a de la transphobie chez les gays, chez les lesbiennes. Si, voilà. Bon, on le sait, hein, on est déjà adulte, je crois qu'on peut ensuite travailler sur cette base-là. On sait que ça existe, mais c'est pas les gens qu'il faut condamner, c'est ce qui motive toutes ces phobies. Je crois que c'est vraiment l'écologie du milieu qu'il faut travailler.
Une des questions qui très probablement fait peur à beaucoup de gens, et ce pourquoi la régulation de la question trans, comme d'autres questions, hein, entendons-nous bien, c'est pas la première, c'est pas la dernière, il y en aura d'autres questions via les discriminations, c'est que notre question tout particulièrement interroge le fait qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, et là pour la première fois il n'y a pas de réponse.
Et ça, sur cette belle parole, on va devoir vous quitter,
rendre l'antenne.
Couper.
N'hésitez pas à acheter le livre et on vous remercie à toutes et à toutes, voilà, d'être venus ce soir.